quand on a du maquereau, ben, je dis ça, c'est des oméga 3, donc c'est important, il en faut. S'il en faut pour le corps, vous pouvez, on vous peut vous les faire en filet, vous badigeonnez un petit peu de moutarde, vous mettez un peu de la chapelure, et puis au dernier moment, vous le faites cuire à la poêle, c'est le top, il ne faut pas grand-chose. Certains produits ne font pas grand-chose. Le poisson lui-même, il a déjà tous ses goûts, tous ses parfums.
Et d'ailleurs, vous, comme vous n'aimiez pas le poisson, c'est non. Lequel le premier poisson que vous avez mangé?
Le saumon, qui n'a rien à voir avec la Méditerranée. Et je l'aime toujours, le saumon.
Merci beaucoup.
Ben de rien, vraiment. Vous êtes partie avec moi, là,
ah
un
oui,
petit
complètement.
Peu.
Complètement.
Voilà, même des fois, comme je dis, même si vous passez, faites un petit coucou, ça nous fait plaisir. Moi, je ne vous le cache pas, la semaine dernière, on était avec deux clients en train de boire notre café.
Alors, à travers cette création, Joachim et Maya, vous nous avez déplacés le matin sur le vieux port de Marseille pour rencontrer Sandrine, cette marchande de poissons. Et plus qu'un témoignage, c'est la tonalité, la texture et l'ambiance d'une rencontre que vous nous livrez, tout comme la générosité de cette personne. Et de manière très subtile et très discrète, vous vous mettez d'ailleurs en scène dans ce documentaire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que la participation à ce workshop et la production de ce documentaire radiophonique vous a apporté ? L'une et l'autre. Joachim.
Ouais. En fait, ça me fait trop plaisir chaque fois d'écouter, de réécouter cette pièce. En fait, c'est comme si elle m'a mis des piles aussi parce qu'elle est super vive, elle est dynamique. Et en fait, c'est exactement ça. J'adore cette femme, cette vendeuse, Sandrine. En fait, dans ce workshop, au début, je voulais faire quelque chose beaucoup plus poétique, beaucoup plus artistique, ou plus personnel, ou plus expérimental, autour du bord, de l'eau, de l'environnement, de comment dire, d'être étrangère dans un lieu, de conserver tout ça un peu ouais, dans un petit monde de moi-même, mais avec après d'avoir rencontré Sandrine, ça a déplacé le projet pour moi, que sa voix, son humour, sa manière de parler de son métier, de sa vie était beaucoup plus forte que ce que on aurait pu imaginer ou écrire à l'avance. Et donc, à part de ça, j'ai compris que dans un documentaire sonore, il ne faut pas seulement chercher à illustrer une idée, et il faut aussi accepter que le réel résiste, qu'il arrive avec sa propre énergie, comme l'énergie très riche de Sandrine. Et ici, le vieux bord n'est pas seulement devenu un paysage sonore, mais aussi une scène humaine portée par une présence très vivante. Et en tant qu'artiste, cela m'intéresse beaucoup parce que je travaille souvent à partir de lieux de frontières, de déplacements. Ce workshop m'a fait penser que le son peut rendre un lieu plus complexe, pas seulement comme espace géographique, mais comme un espace de voix, de gestes, de mémoire et de relations quotidiennes. Donc oui, cela affecte ma pratique beaucoup et ça me donne envie de continuer davantage à l'écouter. L'entretien et surtout des imprévus dans mon travail, dans le futur. Et surtout, c'est de laisser parfois une rencontre transformer la forme initiale et du projet. C'est pour moi, c'est comme ça. Allez, Maya.
Je partage tout à fait ce qu'a dit Joachim sur la rencontre, mais moi, je vais mettre plutôt l'accent sur la nôtre. à savoir que je pense qu'aussi, de par ma formation, même s'il y a une certaine transversalité, j'avoue que quand on raconte une histoire, Il y a souvent un point A et un point B, et il y a le cheminement qui nous permet d'aller d'une façon extrêmement logique jusqu'à la destination. Sauf qu'avec Joachim, avant d'arriver sur le terrain et de nous intéresser du coup à Sandrine, on a eu quand même un peu de formation avec nos formatrices qu'on va écouter par la suite. Et on faisait différents exercices avec le son pour l'apprivoiser. Et Joachim, elle avait une approche du son qui était très différente de la mienne, et je pense que c'est dû à nos parcours. Et donc, par exemple, on pouvait avoir une sonorité qu'elle pouvait... Elle les faisait entrer en écho, elle la répétait de plusieurs manières. Et en fait, moi, ça m'a ouvert. Et quand on a créé le podcast, on a essayé justement de mettre une intention et de jouer avec le son aussi. Donc, je ne sais pas si vous l'avez capté, parce que nous, on est un peu aussi rentré dans notre bulle, et c'était ça qui était chouette. Mais par exemple, le rire qu'on entend à la fin, il part avec aussi le son de la mouette. On a essayé de faire entrer en résonance plusieurs éléments, et donc de savoir qu'il y avait l'intention de la parole de Sandrine, mais il y avait aussi l'intention, enfin notre intention, qu'on a mis dans ce documentaire sonore, en essayant de jouer le plus qu'on pouvait avec la formation qu'on venait d'acquérir, avec les différentes tonalités et sonorités. Et ça, je pense que, en toute honnêteté, j'en aurais pas eu la liberté sans Joachim. Parce que elle m'a ouvert à ces nouvelles perspectives, voilà.
Et oui, en fait, pendant notre tournage sonore, on a aussi enregistré beaucoup du bruit, du son, de l'environnement, des passagers. En fait, pour moi, c'est ça la partie créative, parce que le contenu, l'échange avec Sandrine et Maya, en fait, c'est vraiment naturel. C'est comment on dit ça, c'est ouais, c'est fixé sur Sandrine, cette personne, mais les bruits, les sons de l'environnement, des passagers, et on a joué un peu sur le montage, ça a rajouté beaucoup plus de dimensions intéressantes. En fait, c'est ça, ça fait la vie de Sandrine ou la vie de nous beaucoup plus réelle et beaucoup plus réelle, vivante. Ouais. Merci.
Et riche. Merci beaucoup. Hein. Merci pour votre retour et votre témoignage. On va écouter maintenant la troisième création sonore qui a été réalisée par Magali Nongeon, politiste à Mésopolis, et Fabrice Galis, qui est chercheur et artiste à l'École d'art, au LESA et à l'IREMAM. Et cette création sonore s'appelle « Malia, son père et la mère ».
Moi, j'habite à Marseille, je suis née à Alger, j'ai toute ma vie vécu au bord de la mer. Je voyais la mer depuis mon lycée, c'est quelque chose qui m'apaise, que je trouve très beau. Quand je suis un peu stressée ou que je passe des moments difficiles, ça m'arrive d'aller à la mer toute seule, juste de poser une serviette et aller voir la mer. En plein été, mois de juillet, avec les enfants qui crient partout, qui sont ultra heureux, l'eau qui frappe contre les rochers, contre le sable, à la plage de l'Estac, qui est une plage pas très loin de chez moi. Et ça crie, ça drague, ça s'amuse. Et je pense que pour moi, ça reste quand même l'une des plus belles images de Marseille. Enfin, l'un des plus beaux sons de Marseille, c'est vraiment la fête, s'amuser au bord de la mer, avec en fond le son de l'eau qui frappe contre les rochers. Mais j'ai été marquée d'un souvenir d'enfance. Donc nous, on habite à Djidjela. Alger, c'est un village en bord de mer. Et sous la maison, on a directement accès en fait, aux rochers et au profond. Et donc là-bas, la pratique de la pêche à l'harpon, elle est très très répandue. Et les amis de mon papa, c'est des personnes qui ont grandi là-bas. Et un jour, on était rentrés en France de vacances. Et bon, je rentre et mon père, il pleurait, il pleurait, il pleurait. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, un de ses meilleurs amis, qui était du coup à Digel et qui faisait de la plongée à l'harpon, en fait, a été pris dans ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs et il est mort. Quand je suis un peu anxieuse, stressée, je vais voir la mer. Moi, je me pose, je prends mon petit bouquin ou je prends juste de quoi pique-niquer et je vais voir la mer, que ce soit en été ou en hiver. Petite, on allait dans un petit bord de mer, ça s'appelle la Med, c'est vers Châteauneuf, c'est pas très loin. Et donc l'eau, elle est très très chaude là-bas parce que y a des polluants qui sont rejetés. Donc nous, au début, on n'était pas du tout au courant, on nageait là-bas, on s'en foutait. Surtout qu'elle est très, elle est peu profonde. Donc quand on apprenait à nager, ça rassurait mes parents qu'on nage là-bas. Comme elle était peu profonde, en fait, on pouvait s'enfoncer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et quand on se retournait, finalement, on était à des mètres de la plage. Et là, ça devenait profond d'un coup. Et donc, le retour était compliqué. Elle était très calme aussi. Je me souviens qu'elle était très, 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 très calme. Et ça faisait un peu cette ambiance d'être au milieu de nulle part, dans une mer pas très sereine. Et comme elle était trouble, alors là, c'était le pompon sur la Garonne. Mon père, il a fait un gros travail de sensibilisation auprès de nous, ses enfants, de nous dire à quel point la mer, c'était génial, c'était beau, c'était l'une des sensations de plénitude les plus grandes, mais à quel point aussi ça pouvait être dangereux. J'aime beaucoup les bateaux. Je trouve que c'est très apaisant, c'est un vrai bon moment. Donc moi, j'ai pas peur en soi quand je suis au large avec un petit bateau. J'ai pas peur de la profondeur, après je sais nager. C'est-à-dire que j'ai conscience que la mer, ça reste un état sauvage avec ses propres codes et l'humain, il n'y est pas fait pour y habiter. Ça a ses propres règles, son propre environnement. C'est un environnement qui est complètement différent que celui de la Terre. Et qui répond pas aux mêmes règles et qui est hostile pour l'homme.
Oui, l'eau ça tape, après ça part, après ça revient. On passe d'une petite après-midi de soleil avec un petit bateau sympa à une forte pluie. Mais c'est pas grave, on va se mettre à l'abri et puis on écoute l'eau tomber. Ouh là là. Ouh là là. Pourtant la mer elle était calme, qu'est-ce qui lui arrive?
Blop.
Bah oui, en fait c'est vivant. Blop. Il y a quelque chose qui arrive. Ça c'est apaisant. Là c'est tranquille.
Alors dans cette création réalisée avec Magali Nonjon, Fabrice, vous nous plongez dans les contemplations et les mémoires de cette jeune fille, Malia. Et bien que l'entretien ait été réalisé à l'Estac, vous nous faites voyager entre Alger, Marseille, entre des moments de sérénité, d'apaisement et aussi des souvenirs tragiques. Tout un ensemble d'émotions, de sentiments qui construisent manifestement l'attachement de cette jeune fille aux différents univers à travers lesquels elle a circulé et qu'elle a habité. Alors Fabrice, est-ce que tu pourrais nous dire ce que la participation à ce workshop et la production de ce documentaire radiophonique t'a apporté, a éventuellement apporté à Magali, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous en avez tiré ensemble et quelle est votre expérience?
Bah, oui, merci. Donc oui, Magali serait pas là aujourd'hui, donc je peux pas parler en son nom. Mais voilà, dans ce workshop, c'est vrai que c'est un peu comme les témoignages qui ont eu lieu jusqu'ici. C'est aussi la rencontre. En fait, on a travaillé toujours à plusieurs. Donc c'est vrai que c'est une rencontre autour d'un médium qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Moi, j'ai une pratique du son en tant qu'artiste depuis assez longtemps, mais plutôt du côté d'une pratique autour du sonore et moins du documentaire. Et Magali avait une pratique beaucoup plus novice. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a, c'est une collaboration où, dans le dispositif là, de ce qu'on vient d'entendre, je suis arrivé avec des enregistrements qui avaient été faits en amont, à bord d'un bateau. On a fait une sélection d'enregistrements faits à partir d'un bateau, de différentes ambiances sonores, où il y avait effectivement, on l'entend un peu, de l'orage, et puis des scènes un peu de plage, vaguement prises du large, comme ça. Et Magali, elle travaille avec des jeunes des quartiers nord, et elle avait envie de connaître leur rapport à la mer, voilà, du point de vue comme ça des quartiers nord, qui est un quartier où l'accès à la mer est quand même très compliqué. On l'a vu déjà à l'Estac. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a croisé ces deux univers, et on a proposé à Malia qui a répondu un dispositif, c'est-à-dire qu'on l'a invitée au studio son de l'école d'art. Elle est arrivée donc dans un studio qui ressemble à un studio professionnel, donc il y avait un côté assez solennel comme ça. Et au lieu de lui poser des questions, on lui a mis sur les oreilles un casque et on lui a proposé une écoute. Donc c'est comme ça que l'échange s'est fait. Et c'est à l'issue de cette écoute que sa parole s'est libérée et a commencé à se dérouler. Et on n'a eu quasiment aucun temps de discussion finalement. La discussion, elle se faisait comme ça. Et donc c'est cette espèce de moment un peu qu'on ressent, je pense, dans le montage, ce moment de un peu précieux où on se retrouve tous les trois dans un studio et une personne nous livre à l'écoute d'un son une sorte d'expérience, de souvenir intense de son ressenti en fait. Voilà. Donc ça, c'était hyper intéressant d'avoir accès à ça et que dans ce workshop on puisse construire ce moment où finalement on va pas à la recherche d'une information. On est plus en train de créer un moment collectif dans lequel on découvre ensemble un point de vue sur un univers qui est celui de la mer. Quoi. Voilà. Je pense que c'était le truc le plus riche qui s'est passé. Voilà. On l'entend. Alors à la fin, quand on a fait le montage, on a rajouté un peu les moments où elle réagit en direct, ce qui dénote un petit peu sur l'intensité de son récit autobiographique. Mais bon, voilà, on l'a gardé à la fin pour faire sentir cette espèce de moment un peu spontané.
Alors c'est intéressant parce que c'est un dispositif que, enfin, quand on écoute la pièce, on n'a pas du tout cette impression. Est-ce que vous avez parlé après avec Malia pour est-ce qu'elle a eu une réaction particulière justement après que vous ayez suscité cette parole de sa part?
Oui, ça a ouvert des vannes, donc elle s'est quand même livrée avec beaucoup de sincérité. Mais en fait, ça a aussi ouvert beaucoup de questions de sa part et beaucoup de curiosité sur les sons qu'on lui avait fait écouter. Donc là, c'est nous qui lui avons raconté après d'où venaient ces sons, etc. Et elle nous a demandé après si on avait d'autres sons, si on avait par exemple des sons du fond de la mer. Donc elle avait envie qu'on lui livre comme ça des éléments, une sorte de base de données, de sons qu'elle aurait voulu entendre. Donc à la fin, avec Magali, on s'est dit que comme elle raconte cette histoire de moment idéal d'être sur la plage, ce moment idéal du rapport à la mer qui est être sur la plage le soir avec les gens qui sont là autour, on lui a proposé, on ne l'a pas encore réalisé, mais on lui a proposé peut-être de revenir vers elle avec un son qu'on produirait en réponse à son attente ou à la construction de ce moment idéal. Voilà. Donc on s'est dit comme ça que la discussion pouvait continuer entre paroles et production sonore.
En tout cas, c'est intéressant parce que à travers votre expérience, ce qu'on voit, c'est que on revient à ce dont on discutait ce matin sur la capacité justement du son et de ses ambiances sonores à susciter une parole et à des affects. Donc là, on a eu trois exemples de sur 9 pièces qui ont été créées grâce à Amélie, Léa, François, Peter. On va revenir tout à l'heure avec vous pour en discuter. Mais on avait envie aussi avec Peter, en discutant hier, d'évoquer d'autres workshops. Un autre workshop qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Fabrice, tu y as participé avec William Huet de l'association Atoup. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Et je crois qu'il y a un autre workshop qui aura lieu en juin ou cet été.
Alors William, dont on parlait tout à l'heure, et l'association Atoup qui emmène des gamins des quartiers en mer, voilà, dans le cadre de projets où ils produisent